Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole aux auditeurs. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé jeudi 14 mars la cérémonie de signature du contrat minier et négocié avec le groupe des entreprises chinoises GEC en sigle, augmentant l'investissement dans les infrastructures de 3,2 à 7 milliards de dollars américains. Cela représente la construction de plus ou moins 5000 km de routes, a précisé Alexis Guissaro, ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics. Cet avenant consacre aussi la participation de la RDC dans les capitales des Siko Hydro, des Busanga, 60% GEC, 40% RDC. C'est la ratification du cinquième avenant au contrat minier entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises GEC en sigle, initialement signé en avril 2008. Après cela, le premier ministre Samalou Kondé a présidé lundi 18 mars à Kinshasa la cérémonie de relance des activités du programme sino-congolais après une semaine de négociations autour de la révisitation du contrat minier contre construction des infrastructures signées en 2008 par la Chine et la RD Congo. Samalou Kondé a relevé le fait que cette renégociation marquait un nouveau tournant dans la relance des activités de ces programmes. Il a par ailleurs invité les deux parties à plus de détermination et d'engagement afin d'opérer des meilleurs choix pour l'intérêt de son pays, la RD Congo. Pour rappel, la RDC avait négocié il y a 16 ans un contrat avec le GEC prévoyant l'octroi des gisements de cobalt et de cuivre en échange de la construction des infrastructures. En 2023, le président Tshisekedi l'avait jugé défavorable aux intérêts congolais et avait demandé sa révision. Que vous inspire ces nouveaux contrats renégociés entre la RDC et le groupement des entreprises chinoises? C'est autour de cette question que nous allons échanger pendant 55 minutes dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs. Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi intervenir en direct en composant les 081 890 63 30 et les 081 890 49 69. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde de ce magazine et Blaise Gindani en assure la réalisation et la coordination. À la présentation, Guy Maté.
Parole aux auditeurs. Par internet, pa@radiookapi.net.
Encore une fois de plus, bienvenue dans ces nouveaux numéros de Parole aux auditeurs et merci à tous ceux qui ont réagi sur la page Facebook et aussi qui se sont inscrits pour réagir. Nous parlons aujourd'hui de la signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises GEC en sigle. Pour commenter ces sujets, nous recevons dans ces studios M. Freddy Yodi Chembo, il est directeur général des agences de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et le privé. Bonjour M. Freddy Yodi.
Bonjour M. Guimaté.
Bienvenue dans nos studios.
Merci beaucoup.
D'abord, qu'est-ce que l'on peut retenir au sujet de ces contrats sino-congolais renégociés?
Laissez-moi d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de faire connaître les acquis de cette nouvelle renégociation. En effet, depuis 2022, le président de la République, son Excellence Monsieur le Président de la République, a décidé la renégociation de ce contrat qui était porteur de beaucoup d'espoir, mais devant lequel tout de suite les gens ont dû déchanter. Parce que le paradigme était le paradigme de minerais contre infrastructure, mais on a trouvé que les minerais, du côté minerais, ça prospérait, du côté infrastructure, et on n'avait pas beaucoup réalisé. Et donc, c'est comme ça que la renégociation a été lancée. Et ça n'a pas fait qu'une semaine, ça fait plusieurs mois, mais ça aboutit il y a quelques temps. C'est là où vous avez, l'opinion a assisté à la signature de l'avenant. Alors, ce qu'on peut retenir, c'est que désormais, première chose, c'est que ce n'est plus le montant d'investissement aux infrastructures est passé de 3 milliards à 7 milliards de dollars américains. Donc, on a une plus grosse enveloppe. Ça, c'est un. De deux.
Donc, ça, c'est la première différence.
C'est la première différence. La deuxième différence, c'est que, de manière pratique, dans le passé, depuis les gros ouvrages qui ont été faits dans les années 2009-2010, il n'y a plus rien eu de grand. Parce qu'il y a eu beaucoup d'années vides où il n'y a eu aucun financement, en fait. Nous ne savons pas pourquoi, pourquoi on n'a pas revendiqué, mais désormais, on a corrigé ce déséquilibre par le fait qu'il n'y aura plus d'années vides. Il y a désormais un minimum de 324 millions de dollars garantis pour la construction des infrastructures. Ça, c'est la deuxième, le deuxième acquis de cette renégociation. Le troisième acquis de cette renégociation, c'est que désormais, la GECAMINE va participer beaucoup plus activement à la table de décision. Et d'ailleurs, la commercialisation, la direction de commercialisation de la SICOMINE, qui est la plateforme financière, la joint venture qui a été créée pour financer, pour servir, pour faire le service de remboursement, eh bien, cette direction commerciale de commercialisation sera désormais dirigée par un Congolais. Et donc la GECAMINE non seulement va recevoir ses royalties, mais la GECAMINE va maintenant jouer un rôle plus prépondérant de manière à garantir les intérêts de la partie congolaise. Le troisième, ça c'était le troisième, le quatrième acquis, c'est que Busanga, cette centrale hydroélectrique qui produit 240 mégawatts
dans le Lualaba,
dans le Lualaba effectivement, va désormais, dans le temps, la partie congolaise n'avait que 25% et la partie chinoise avait 75%. Donc désormais, la partie congolaise a 40% et la partie chinoise a 60%. Et dans la partie, dans le pourcentage de la partie congolaise, il y a plus des partenaires dont on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants. Maintenant, c'est clair que ça, ces 25, ces 40% sont à la partie congolaise. Un autre acquis, et pas de moindre, c'est qu'il y a maintenant le principe des audits. Depuis 2008, ce programme n'a pas été audité. Et donc, il faut, pour qu'on aboutisse à un véritable rééquilibrage, en plus de ce qui a été fait, il faut qu'on procède à des audits techniques, pour voir combien de minerais, pour déterminer vraiment la quantité de minerais qui a été exploité, et puis ouais, des audits financiers pour voir dans quelle phase de financement de projet on est. Est-ce que les Chinois se sont-ils déjà fait rembourser, oui ou non? Et c'est à partir de cela, n'est-ce pas, que nous allons encore envisager, parce que la convention prévoit que le dialogue est permanent, à l'amiable. Donc si on trouve encore des déséquilibres à la sortie de ces audits-là, on va encore renégocier pour le rééquilibrer davantage.
Celui qui avait été négocié en 2008 était qualifié par et le gouvernement congolais, et les ONG, et beaucoup d'experts des contrats léonins. Est-ce que vous pouvez rassurer l'opinion aujourd'hui que celui qui vient d'être renégocié va tenir compte des intérêts de la RDC? Est-ce qu'on peut dire que c'est un contrat gagnant-gagnant, comme on le dit souvent?
Effectivement, telle a été la volonté du président de la République et telle a été notre boussole. Ça a été ça, la philosophie, pendant toute la renégociation. Il faut que la RDC gagne. Bon, maintenant, le niveau de satisfaction, c'est encore à poursuivre. Mais au moins, nous sommes sur une très bonne voie et le Congo gagne nettement plus qu'il n'a gagné dans la formule ancienne.
Vous savez que l'ancien régime, à l'époque, hein, lorsqu'on avait signé les contrats initialement signés en 2008, il y a eu beaucoup de bruit, il y a eu beaucoup de pédagogie et beaucoup d'espoir, n'est-ce pas, suscité par cette marque de détermination du gouvernement et de l'ancien gouvernement. Mais malheureusement, après, on a déchanté. Est-ce qu'on ne va pas assister au même désespoir dans une ou deux ans?
C'est vrai que nous avons eu beaucoup d'espoir et avec raison. Avec raison parce que déjà pour vous répondre, pour faire court, dans deux ans, on ne va pas déchanter. Dans deux ans, on va voir des réalisations concrètes. On va voir que on fera des ouvrages qui ne seront pas que cosmétiques. Nous avons l'ambition, par exemple, de travailler très activement à relier le pays. Par exemple, un projet tel que la RN1, si nous pouvons aujourd'hui prendre notre voiture à partir de Kinshasa et arriver à Lubumbashi, on peut directement et clairement voir que c'est un programme qui est en train de faire la différence parce que en 15 ans, ça n'a pas été fait.
Bienvenue ici, vous nous rejoignez sur Radio Capi, vous suivez en ce moment votre magazine Parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de la signature du contrat minier renégocié avec le groupement des entreprises chinoises GEGEC en sigle, avec notre invité ici au studio, M. Freddy Yodi Chembo, il est directeur général de l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre la RDC et les privés. Si vous voulez réagir, vous pouvez appeler 081-890-6330 et 0-81-890-4969. Nous allons à présent ouvrir les standards avec les auditeurs qui sont déjà en ligne, en train, n'est-ce pas, de nous appeler pour donner leur point de vue. Blaise me dit que nous avons déjà quelques auditeurs. Voilà, donc nous avons qui, Blaise, là, en ligne? Voilà, on me dit que Steve est là. Bonjour Steve. Bonjour Steve. Apparemment, il n'est pas là. Est-ce que ce n'est pas Baïgouéré? Baïgouéré de Bukavu. Voilà, Baïgouéré, bonjour. Voilà, lui non plus n'est pas là. Et François Okunji de Pichikapa, est-ce que vous êtes là?
Merci beaucoup, monsieur Valé de la Plume. Merci. Salut à votre invité. Salut à tous les invités de la radio au Cap. C'est François Okunji de Pichikapa Ville.
Voilà, François, nous sommes en train de parler, comme vous le savez, des nouveaux contrats, les contrats sino-congolais renégociés. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Merci bien. J'ai vu cette publication sur la page Facebook de la renégociation, la signature du contrat minier entre la République du Congo et la Chine par l'entremise du gouvernement congolais, bien sûr, du chef de l'État. Mais écoutez, c'est comme je l'avais autrefois commenté, un bon contrat est celui qui profite à la population. Je pense que l'intervenant ou l'invité qui est avec vous est en train de me suivre avec attention. Alors, un bon contrat est celui qui profite à la population ou à la République. Bien sûr, avec le système des gagnants-gagnants, mais lorsque les entreprises minières dont la Chine peut exploiter, je l'ai toujours dit qu'il faut que ça profite beaucoup plus à la contrée ou aux habitants de la contrée exploitée. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait les infrastructures bien construites, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des mesures de prévention des maladies toxiques. Et il faut qu'il y ait des écoles qui peuvent profiter aux enfants riverains. Et surtout, le contrat doit profiter à plus de 60% dans les budgets du gouvernement central, pourquoi pas aussi dans les gouvernements provinciaux, dans les lieux où les activités se déroulent. Donc, c'est une bonne initiative, c'est une bonne nouvelle que nous saluons, nous encourageons le gouvernement provincial, mais qu'on tient compte des avantages, surtout plus à la population, généralement au gouvernement congolais, et non profiter à l'extérieur sans que le pays en profite abondamment.
Et merci beaucoup, M. François. Il s'agit plutôt du gouvernement central qui a signé ces contrats, pas le gouvernement provincial, comme vous l'avez dit. Docteur Michael Bolingo, qui est intervenu depuis Bukavu, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis tellement connecté.
Bonjour, Docteur Michael Bolingo.
Bonjour très cher Radio Capi, je salue l'invité. J'ai été aussi saisi de cette thématique, combien de fois plus important. Le premier, mon prédécesseur venait de le dire, quand je vois chaque année, nous pouvons signer au moins plusieurs fois des partenariats avec certaines sociétés minières, mais il y a un problème que nous observons souvent, la population locale ne parvient même pas à bénéficier. Ce qui est même à la base de beaucoup de révoltes de cette population. Parce que je prends l'exemple, quand je vois dans le site Kivu, il y a beaucoup d'entreprises minières, mais jusque-là, on ne voit rien comme impact de ces entreprises-là. Pour moi, je suggérerais d'abord, les premiers bénéfices de la population, c'est d'abord les routes. On doit signer donc que ces sociétés-là, elles-mêmes construisent les routes, pour relier d'abord les villes, pour donc ça va aussi aider au déploiement de leurs marchandises et la population sera bénéficiaire. Les routes en premier lieu. En deuxième lieu, quand je vois par exemple pour le cas de Walikale, il n'y a même pas un aéroport, il n'y a même pas de route. Pour aller à Walikale, il faut faire au moins plus de 3 jours. Il n'y a même pas la connexion, Internet. En tout cas, on trouve que ces sociétés-là ne viennent que juste pour s'enrichir et aussi enrichir les autorités. Alors, en dernier lieu, ce que j'avais comme proposition au gouvernement, c'est lequel? On doit expliquer à la population, voilà une société X, elle vient dans notre milieu, elle va faire tels avantages pour vous. Comme ça, cette population elle-même aura fait le suivi. Et vous allez voir combien de fois nous aurons au moins certaines routes. Parce que ce qui est à la base des difficultés et la pauvreté de la population, c'est qu'il n'y a pas de routes qui servent la connexion entre les provinces, entre les villes. Voilà en bref ce que j'avais. Mais toutefois, nous encourageons les accords. C'est quand même bien. Mais nous sommes en train de voir que nous ne sommes jamais bénéficiaires. Au contraire, ce sont les autorités et les sociétés qui bénéficient. Merci beaucoup.
Merci. Donc on va redonner la parole à notre invité, Monsieur Freddy Yodi Chembou. Il y a des aspects importants qui viennent d'être soulevés par les deux auditeurs. Oui, François Depuis Chikapa qui dit qu'un bon contrat c'est celui qui tient compte, n'est-ce pas, des intérêts de la population, surtout la population riveraine. Ouais. Et Docteur Michael Bolingo qui l'a rejoint, n'est-ce pas, dans sa réflexion, mais lui qui ajoute le fait que vous devez faire un travail de pédagogie, vous devez expliquer les tenants et les aboutissants de ces contrats à la population, et cette population-là peut même vous aider à faire les suivis de la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ces contrats. Et je rappelle ici que lorsque vous avez renégocié ces contrats, ces nouveaux contrats, les ONG ont reproché, n'est-ce pas, au gouvernement l'opacité. Les ONG ont dit que, une fois de plus, le gouvernement a entretenu l'opacité par rapport à ces contrats. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ces deux auditeurs et puis à cette autre préoccupation qui est celle d'être transparent?
Oui, merci beaucoup. Déjà, merci Monsieur François Okunji qui a appelé de Chikapa. En fait, il pose le problème de la responsabilité sociétale. Et ça, c'est fondamental et il a absolument raison. Vous avez très bien fait tout de suite de faire remarquer que ce n'était pas le gouvernement provincial qui avait renégocié, mais c'était plutôt le gouvernement central. Mais il reste vrai que les populations doivent être bénéficiaires de leur sous-sol. Et c'est ça la philosophie prônée par le président de la République.
Ils vont l'être effectivement.
Absolument. Il y a une responsabilité sociétale qui pèse et qui doit être suivie. Vous savez, Monsieur François, et même à vous, Monsieur Guimaté, je vous dis que les meilleurs textes restent lettres mortes s'ils ne sont pas bien suivis. Voilà. Et j'aime bien dire que l'homme ne respecte que ce qu'on inspecte. On est venu et on a eu des partenaires qui sont venus avec peut-être toute la bonne volonté, j'ose croire. Le contrat en lui-même, si vous voyez le paradigme du programme sino-congolais, c'est salutaire. C'est salutaire pour nous. Pourquoi je le dis? Pour que nos auditeurs comprennent. Il se fait que normalement pour le développement des infrastructures dans un pays, on doit recourir d'abord au trésor public. Et si donc le trésor public n'en a pas suffisamment, on va rester dans le même drame pendant plusieurs années. C'est comme ça qu'on recourt généralement à la deuxième source, les bailleurs de fonds. Or, les bailleurs de fonds viennent entraînant les pieds. Ils ne sont pas pressés. Et la troisième formule, ou le troisième recours maintenant, devient les PPP, les partenariats publics-privés, où on invite des sociétés privées pour venir aider la puissance publique pour les institutions pour la construction des infrastructures. Et nous, avec le programme sino-congolais, c'est justement la troisième formule des PPP. Mais dans ce cas maintenant, et c'est là où intervient notre agence, parce que nous ne sommes plus qu'un bureau de suivi pour le programme sino-congolais, nous sommes un établissement public pour le suivi de tous les programmes semblables. C'est-à-dire que en plus,
je rappelle que c'est l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions, des collaborations entre la RDC et les privés.
Effectivement. Donc les partenaires privés viennent et ils viennent en appui à la République dans quelle formule? Pour dire, normalement lorsqu'on va dans les PPP traditionnels, il y a le problème de la dette publique, il y a le problème des garanties, mais lorsqu'on vient dans cette formule de infrastructure contre minerais, minerais contre infrastructure, c'est-à-dire qu'on a des gros programmes d'un minimum d'un milliard de dollars pour des gros projets, des projets de grande envergure. Et c'est de cette manière-là, notre pays regorge des matières premières, des ressources naturelles qui devraient profiter à la population. Mais on ne va pas prendre du cuivre et manger. On va prendre ces histoires, les transformer et construire des routes qui peuvent permettre aux Congolais de vivre aisément dans leur pays. Et c'est ça la formule, et ça a été ça le paradigme, ça a été ça l'équation. Malheureusement, le suivi fait toute l'affaire, fait toute la différence. Alors, pour ce qu'a dit le docteur Michael Bolingo, effectivement, il revient encore sur le problème de la responsabilité sociétale qui est vraiment clé et critique. Il donne d'ailleurs des exemples éloquents de ce qui se passe. Nous sommes activement en train de travailler. Par exemple, le programme sino-congolais a lancé dans l'Est la route qui va de Kamagnola à Uvira. parce qu'on estime que c'est absolument important que la population puisse se déplacer. C'est une route qui avait été lancée depuis longtemps et puis elle s'est arrêtée au milieu de nulle part. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons dit qu'il faut absolument qu'on la relance et le ministre Alexis Guissaro est allé la lancer et les travaux vont reprendre maintenant que les négociations sont finies. Mais en dehors En dehors du programme sino-congolais, nous, à l'agence de pilotage, nous sommes en train de travailler justement sur la route nationale numéro 3 qui va de Bukavu, passant par Walikale dont il a parlé, qui va aller aboutir jusqu'à Kisangani. Et si cette route-là peut être faite, peut être vraiment construite, ça va sérieusement aider cette population, ça va désenclaver et on va aller dans la même logique, c'est-à-dire qu'il est absolument important que les populations locales bénéficient de leurs ressources. Et donc, par rapport à la population, le docteur a si bien, il a prodigué des conseils très, très, très judicieux et il a parlé, par exemple, de l'implication de la population pour que la population surveille. C'est le contrôle citoyen. Et nous sommes parfaitement d'accord avec cette logique. C'est pour ça que nous, dès que on a fini la renégociation, nous avons tout de suite invité la société civile à nos bureaux. On leur a expliqué.
Pourtant, elle a dit qu'elle n'est pas satisfaite parce que vous n'êtes pas transparent.
Oui, vous, voilà.
Il y a beaucoup d'opacité autour de ces
constats. La société civile a décrié cette opacité. Nous avons justement réagi à ça. Et nous les avons invités justement pour qu'ils puissent avoir des explications et nous communiquer. Comprenez que nous sommes la structure de suivi. Nous ne sommes pas la structure de négociation. Le gouvernement et les entreprises chinoises négocient et nous rendent le document dont nous allons faire le suivi. Et dans la formule actuelle, comme j'ai dit, il y a eu un grand déséquilibre pendant des années. On a fait un effort de rééquilibrage, mais on ne le termine pas en un jour. C'est pas en un coup. Tenez, par exemple, Monsieur Guy, que ça c'est l'avenant numéro 5. Quatre avenants ont précédé celui-ci, tous les quatre initiés par la partie chinoise. Ça, c'est le premier avenant initié par la partie congolaise. Donc, nous allons rester dans ce dialogue, on va recueillir des opinions et on va initier d'autres avenants jusqu'à ce qu'un véritable équilibre revienne dans cette convention.
Merci. On va encore écouter les auditeurs qui sont nombreux, n'est-ce pas, en train de vouloir intervenir. Il y a M. Jackson depuis Kisangani. Jackson, vous êtes là?
Oui, je suis là, monsieur le journaliste.
Bonjour, Jackson. Posez votre question.
Alors, ma question est la suivante, monsieur le journaliste. Quels sont les types d'hommes qui seraient à la base de ces contrats? Parce que nous connaissons bien que dans notre pays, nous en avons le problème des types d'hommes. Qui et à qui on peut les responsabiliser, ces contrats-là? Parce qu'il se pose le problème des regroupements politiques, le problème est là des tribalismes, des népotismes. Ça pose problème. Alors, à mon humble avis, j'aimerais que le parlementaire puisse aider le président de la République pour que ces contrats puissent atteindre son objectif avec les mécanismes de suivi et évaluation. Car un pays sans infrastructure routière se voit déjà dans son disparition. Et en quel contexte de développement serait envisageable, monsieur le journaliste?
Merci, on a compris. Il y a aussi monsieur Steve Baoguere qui intervient depuis Bukavu. Steve, vous êtes là?
Oui, je suis là, monsieur Guy Maté.
Bonjour Steve, nous avons notre invité ici au studio, monsieur Freddy Odi Chembo. On vous écoute.
Bonjour d'abord à tous les intervenants. À tous les auditeurs de la radio Okapi, la fréquence de la paix. Bon, avant de dire un mot sur l'article premier du Code civil, livre 3, laissez-moi évoquer les principes de base en matière contractuelle. Il s'agit d'abord, 1, les principes d'autonomie des volontés, les principes de la convention loi qui est prévue par l'article 33 du Code civil livre 3 et enfin les principes de l'exécution des bonnes foi des conventions prévues à l'article 33 alinéa 3 du Code civil livre 3. Un principe latin dit tacta sunt servanda qui veut tout simplement dire que les contrats sont faits pour être respectés. En effet, L'article 1er du Code civil, livre 3, définit le contrat comme étant une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Notons que les termes contrat et les termes convention sont aujourd'hui considérés comme synonymes. Le contrat est donc un accord de volonté en vue de créer...
Steve, s'il vous plaît, on n'a pas tout le temps. Hein. Vous voulez dire quoi? Est-ce que vous avez une préoccupation?
Oui.
Voilà. Allez droit au but, parce qu'on n'a pas tous les temps. Hein. Il y a beaucoup d'intervenants qui veulent aussi donner leur point de vue.
Oui, donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi 30 secondes, M. Guimaté.
Allez à l'essentiel, s'il vous plaît.
Le contrat est donc... Oui, merci beaucoup. Le contrat est donc un accord de volonté en vue de créer, modifier, transformer ou éteindre des obligations juridiques. Le contrat est ensuite un acte juridique. Lorsqu'il est formé, il produit des effets protégés par les droits positifs. Je pense qu'il est grand temps que l'État congolais puisse bifier et équiper ses propres sociétés au lieu de faire toujours confiance à celles des étrangers. Le groupement des entreprises chinoises a prouvé à la face du monde qu'il est limité. Heureusement que même le président de la République, M. Félix Tshisekedi, a jugé une partie de ces contrats défavorables car il n'a rien vu dans l'intérêt des Congolais.
Merci.
C'est un peu ça, M. Guimati.
Merci, Steve. Oui, merci beaucoup. Il y a aussi Obed depuis Kinshasa. Obed, vous êtes là?
Et bonjour Guimaté, bonjour à tous les auditeurs ainsi qu'à l'invité.
Voilà, Obed, on vous écoute.
Oui, monsieur Guimaté, vous savez, ces genres de contrats à soi, les contrats est salitaire, mais c'est l'exécution et aussi voilà la contrepartie qui jusque-là pose beaucoup plus de problèmes et cela suscite beaucoup de questionnements. Et donc moi je vais marquer bouté beaucoup plus si vous souhaitez ergoter et sur l'essence même des responsabilités et des redevabilités de nos gouvernants face à ces genres de choses. Ça veut dire que les ressources naturelles de notre pays doivent être subir un partage de manière beaucoup plus équitable, parce que on sait très bien que avec les régimes politiques qu'on a, nous tous nous ne pouvons pas diriger les pays, et lorsque nous populations nous déléguons nos pouvoirs à un certain nombre de personnes à qui l'on place confiance. Donc cette dernière doivent aussi avoir les soucis de bien faire, ça veut dire qu'aider ceux qui les ont justement envoyé ou accordé la confiance. Les cas sous examen, l'on voit comment est-ce que la RDC est entrée justement de chercher les partenariats partout au monde en vie, voilà. De signer des contrats pour justement chercher les développements dans notre pays. Voyez-vous, aujourd'hui, moi je me dis toujours que les problèmes de la RDC sont totaux et globaux, parce que sur les plats des infrastructures, on est très très réquilé. Beaucoup plus, vous allez voir que les échanges des biens et services entre les provinces posent suffisamment des problèmes, parce que l'état de nos routes ne permet pas qu'il y ait voilà la fluctuation justement des biens et services, comme je l'ai dit. Donc il sera tout simplement question de faire très bien les choses. Ça veut dire qu'avec l'essence des responsabilités et aussi ce qui entoure les chefs, parce que c'est comme les maréchal Mobutu disait, les présidents de la République à lui seul ne peut rien, parce qu'il n'est pas magicien non plus, mais avec les concours de ceux qui sont à ses côtés, il peut tout. Ça veut dire qu'il faut, on doit cesser cette habitude qu'on a. Les présidents de la République, dans toutes ces matières, a des conseillers. Mais dans la plupart des cas, on a toujours l'impression que ceux qui entourent les chefs ne sont que des flanteurs. Parce qu'il suffit de dire au chef, ce que vous faites ici aura des répercussions face à ce genre de choses. Il faut faire ça, 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 pour voir la population aussi être bien servie. Merci. Au lieu de ces services. C'est ça. Merci. Le plus gros problème.
Merci.
Aujourd'hui, si on a Jacques Attali comme meilleur conseiller dans l'histoire politique française, vous allez voir que c'est la vérité, c'est dire au chef ce qu'il faut dire, au lieu, voilà, de flouer les choses, au lieu de faire les choses pour leurs propres intérêts. Voyez, voilà là où les problèmes se posent, M. Guimet.
Merci, Obed. Merci, c'est très pertinent. Et on revient à notre invité, M. Frodi Odi Chembo. Vous avez suivi Jackson depuis Kisangani,
oui.
Qui parle de la qualité d'homme. Obed qui vient de parler, qui parle également de la qualité d'homme. Qui sont en train, n'est-ce pas, de gérer ces contrats, qui sont en train de faire le suivi de la mise en œuvre de ces contrats. Ces hommes qui peuvent être en mesure aujourd'hui de dire au chef de l'État, là ça ne va pas, là ça va, on peut évoluer, tout ça. Des hommes qui peuvent faire une évaluation devant le chef de l'État sans complaisance. Ils évoquent ça. Ça, c'est un problème sérieux que nous avons dans ces pays. Est-ce qu'on va tenir compte de ça avec ces nouveaux contrats? Mais aussi, Steve de Bukavu, qui a parlé de nos entreprises. Pourquoi ne pas mettre un accent sur nos entreprises?
Voilà.
On a toujours parlé de la production locale et tout ça, et promouvoir, n'est-ce pas, l'initiative locale. Pourquoi ne pas aussi penser à ces entreprises?
Absolument. Je vais peut-être commencer par là d'ailleurs, parce que M. Steve Bauger a parlé de plusieurs notions de droit, et il a dit que les contrats sont faits pour être respectés. Il sait, il a évoqué des articles. Je suis par ma formation, je suis juriste, et il sait que les contrats légalement formés tiennent lieu des lois pour ceux qui les ont faits. C'est pour cela qu'il fallait absolument renégocier, parce que dans les termes des contrats de cette convention telle que négociée au départ, on avait les mains liées. Par exemple, cette convention prévoyait que tous les ouvrages soient exécutés seulement par les entreprises chinoises. Et donc, vous pouvez venir avec la meilleure des intentions en tant que structure responsable du suivi, mais vous ne pouvez rien faire. Parce que justement, il a évoqué cet article qui dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faits. Et c'est pour ça que le chef de l'État a eu la clairvoyance de la renégociation. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer et dire aux auditeurs que désormais, il y a un quota d'ouvrages qui devront être exécutés par des entrepreneurs congolais. Et donc ça, c'est déjà l'une des innovations d'ailleurs.
Vous avez commencé à les identifier?
On a commencé à les identifier. On a reçu les jeunes entrepreneurs congolais et nous avons eu des réunions avec la CGT. Nous sommes en train de les identifier parce qu'il faut absolument que ces entreprises disposent aussi de la capacité technique et financière. Voilà. Et c'est là où nous sommes en train aussi de parler aux autorités congolaises pour que le FOGEC, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat congolais, soit aussi équipé pour pouvoir donner des garanties. Parce que regardez, par exemple, un Congolais va gagner un marché. On lui demande de donner de l'argent en garantie qu'il n'a pas. Quel entrepreneur congolais a 5 millions pour garantir, par exemple, 5 kilomètres de route en avance? Et donc, on est en train de réfléchir à tout ça. Mais en fin de compte, ce que je peux dire, c'est que nous tenons absolument à faire participer non seulement les entrepreneurs congolais, mais la jeunesse congolaise. Parce que là, dans le cadre de notre agence de pilotage, nous avons pris la résolution, avec l'autorisation de M. le Président de la République, de recruter les meilleurs, d'engager les meilleurs, les lauréats de nos écoles techniques. IBTP, ainsi de suite, pour qu'ils entrent déjà dans le système et qu'il y ait transfert de compétences, de manière à ce qu'aujourd'hui, on résout le problème avec les entrepreneurs, mais on résout le problème pour l'avenir avec les jeunes qui seront en train de bénéficier déjà de ce transfert de compétences. Alors, Monsieur Jackson a parlé de la qualité d'homme. Ici, je l'ai dit, Monsieur Guimaté, que les textes peuvent être bons, mais il faut des hommes pour les animer. Et c'est pour cela que nous apportons une philosophie différente. C'est vrai que nous pouvons parler de nous. Aujourd'hui, il a parlé de népotisme, il a parlé de regroupements politiques, de tribalisme. Eh bien, moi, je ne suis pas dans cette logique. Nous sommes là pour faire un travail technique de suivi. Le président de la République nous a donné cette mission de faire ce travail de suivi et de se rassurer que les engagements sont respectés et que cette convention, comme l'a dit Steve, que les contrats sont faits pour être respectés, nous allons nous rassurer que les dispositions de ce contrat sont respectées. Monsieur Obed a, pour reprendre ses propres propos, a ergoté. Il a parlé beaucoup de bonnes choses et il a parfaitement raison. Le problème va se poser au niveau de l'exécution. Et bien, ce que je vais vous dire, Monsieur Guimaté, aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Donnons le temps au temps. qu'on nous juge par les, par les résultats.
Est-ce que vous, M. Freddy Yodi, vous aurez le courage de dire au chef de l'État, par rapport à la route, vous avez évoqué la route Bukavu-Kisangani. Monsieur le Président, je vous informe que nos amis chinois n'ont pas fait le travail comme il se doit.
C'est exactement,
vous avez la possibilité, vous avez le courage de dire cela.
C'est exactement ce que Monsieur le Président de la République attend de moi. Et c'est ce que nous faisons déjà. Je vous donne un exemple. Comment on est arrivé au rééquilibrage? C'est parce qu'un citoyen courageux, l'inspecteur général de finances, chef de service, M. Jules Alinguette, a eu le courage de décrier les injustices que les gens gardaient tout pas. Et donc, voilà un citoyen qui a eu le courage de dire. Et nous, nous avons aussi eu le courage de faire voir des déséquilibres. Et donc, nous venons justement dans la philosophie du rééquilibrage. C'est ça notre mission. Et si nous ne faisons pas ça, il aurait mieux fallu que nous ne prenions même pas les fonctions.
Alors, donc, à travers ces partenariats, nous allons seulement, la RDC va seulement bénéficier des infrastructures. On ne va pas bénéficier de cette question importante aussi, les transferts des technologies. Transferts des technologies Chine-RDC.
Absolument, absolument. Nous parlons des infrastructures parce que c'est le besoin le plus criant. Et j'ai parlé tout à l'heure que nous allons voir nos jeunes des universités qui vont entrer, mais en plus
qui seront formés par les Chinois.
Qui seront formés par des Chinois. On va faire des mécanismes de stage, on va faire des mécanismes de formation. Il y a même des mécanismes de bourse qui existent. Il y a plusieurs choses qui ont été prévues, mais qui n'ont tout simplement pas été suivies et que nous avons l'intention de suivre. En fait, nous sommes entrés il y a une année, mais vous ne savez pas encore juger ce que nous pouvons faire ou ce que nous avons fait, parce que justement la renégociation ne s'est terminée qu'il y a une semaine. Et maintenant, nous avons une semaine depuis la renégociation et on est en train de vous parler aujourd'hui de ce que nous comptons faire, mais une année après, nous aurons à vous parler de ce que nous aurons fait.
Il y a un cancer qui ronge ces pays, c'est la politique, hein, c'est partis politiques. Et tout s'est fait en fonction, n'est-ce pas, des membres d'un parti politique. J'ai fait ça parce que j'ai choisi telle personne parce qu'il est cadre de mon parti politique. J'ai choisi cette personne parce qu'il est militant de mon parti politique. Et donc tout est maintenant politisé et tout cela s'est fait au détriment, n'est-ce pas, de la compétence. Est-ce que vous serez différent? Vous allez faire des choses différemment.
Je vous le promets, je m'y engage, mais je peux déjà vous dire que dans le cadre de l'agence de pilotage que nous dirigeons, nous n'avons pas, on ne connaît pas cette réalité-là. Je peux vous dire ici qu'aucun parti de ce pays ne nous a approché avec une liste des gens à engager ou nous obliger à les prendre.
Vous aurez des recommandations d'ici là?
Non, les recommandations viendront, mais c'est tout à fait normal. Mais nous les suivons, nous écoutons, nous organisons des entretiens d'embauche. Nous sommes en train de chercher des compétences. Et il faut absolument des compétences. Nous avons des problèmes sérieux. Il faut des hommes sérieux.
Lorsque le ministre qui vous a, peut-être qui a soutenu votre dossier, vous appellera pour dire, prenez mon petit là. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est lui qui a soutenu votre dossier. Vous vous rappelez cela? Vous allez faire quoi?
C'est hypothétique. Dans cette hypothèse où un ministre aurait soutenu mon dossier, ou le dossier d'un un dirigeant de la République, c'est que ce ministre a vu dans ce dirigeant un homme capable de jugement. Et donc, si vous avez un entretien sincère avec un tel ministre, qu'il ait soutenu ou pas, qui vous recommande quelqu'un, vous devez avoir le courage de lui dire que cet homme n'a pas le profil.
Merci, merci. On écoute encore une fois de plus les auditeurs. Là, nous avons Maître Patrick Odia depuis Lubumbashi. Maître Patrick, vous êtes là? Maître Patrick Odia, bonjour.
Bonjour, Guy Maté. Bonjour, M. Freddy Chiembo.
Voilà, on vous écoute, bonjour, Patrick Odia.
Ah oui. Merci beaucoup, Guy Maté, de m'avoir associé à ce débat. J'ai connu M. Chiembo en tant qu'expert en investissement. Je pense qu'il va devoir mettre en place son expérience, j'allais dire, sur le plan d'investissement, sur le plan juridique également. Toutes ces expériences comptent pour ce nouvel appel ou cette nouvelle tâche qu'il a aujourd'hui de coordonner cette agence de pilotage. Seulement, je dis que ce contrat était léonais. Et un contrat léonais, il y a eu l'IGF qui a eu à pouvoir ramener ce contrat à ce que nous quittions de 3 milliards à 7 milliards, également sous Naïdroc. Ce sont des avantages que nous devons encourager et nous félicitons l'IGF pour ce travail également. Mais seulement, nous avons des préalables, nous avons des questions substantielles qui nécessitent vraiment à ce que les bonnes personnes compétentes, bien entendu, s'assoie à la place qu'il faut. Lorsque nous prenons également tout ce que M. Freddy a dit tout à l'heure, c'est ce que l'ancien coordinateur disait également, il promettait, il était dans la théorie, mais dans la pratique, vous avez entendu la suite, il y a eu des détournements, il y a eu ceci et cela. Je pense qu'à 50%, nous devons faire face. Mais je voudrais aborder cette question au-delà de tout engagement que nous pouvons donner, des préalables tels que les sous-traitants. Je pense qu'il a évoqué tout à l'heure qu'il y a des critères pour sélectionner quelques entreprises congolaises, et cela entre dans la vision du chef de l'État pouvant créer des millionnaires et des milliardaires congolais. Je pense que ça, c'est une question déjà vidée. Mais la question qui réside ici, en tant qu'agence de pilotage, la question, sur base de quels critères M. Freddy Tshembo, c'est-à-dire lui et son institution, se base-t-il à pouvoir choisir des routes par priorité ou en urgence? Sur base de quels critères? C'est peut-être une question, quand il prendra parole, il pourra également nous éclairer également. La deuxième préoccupation, peut-être pas préoccupation, mais observation que nous avons, c'est la qualité des infrastructures. Guy Maté, nous sommes habitués dans ce pays, il y a un cancer. Lorsque on dit souvent qu'une route, un kilomètre coûte 1 million, nous avons tendance à voir qu'un million, c'est kilomètre de route, c'est vraiment une route praticable, peut-être avec une durée de 50, 100 temps et quelque chose comme ça. J'ai eu la chance d'arriver en Côte d'Ivoire. Lorsque vous arrivez à Abidjan vers Yamoussoukro, non, vous êtes fier de voir que c'est une route. Contrairement à tout ce que les autres font ici, on calcule sur base de 1 million. Je pense que sur ce côté, qu'ils puissent prendre des mesures pouvant nous garantir la traçabilité, j'allais dire la traçabilité, mais aussi la qualité des infrastructures routières. Je prends la route de Kabinda à Lomami vers Est, Maniema, sortir jusqu'au sud de Kivu. Est-ce que peut-il nous garantir que cette route également fait partie de ça? Dédé, peut-il nous faire aussi également une promesse sur la route Kasumbalesa jusqu'à Kinshasa? Cette route sera-t-elle également prise en compte? Dédé, est-ce que son agence peut-elle également prendre en compte la question des Kalambamouche qui fâche, qui fait des années et des années sans que cette question soit résolue? Est-ce que peut-il nous affirmer ou nous promettre que la route Kalambamouji-Angola jusqu'au Kassai sera-t-elle également prise en compte? Enfin, non seulement cette milliard pouvait également aller dans les infrastructures routières, Guy Maté, soyons également vrais, ce pays ne connaît pas uniquement les problèmes des infrastructures routières. C'est bien beau, c'est important, mais oui, mais ce n'est pas le seul problème, ce n'est pas le seul défi. Nous sommes face au défi également énergétique ou des courants, de l'électricité, que les peuples congolais, il y a certains endroits où on n'a jamais connu l'électricité également. Et ce sont des grandes villes, pas même des villages, des grandes villes. Et les mêmes courants qui devraient profiter aux Congolais, on va ailleurs. Je pense que cette question, au-delà des infrastructures, M. Freddy, avec son équipe, devrait également se poser sur l'électricité, l'argent.
Mais
c'est là toujours une solution. Je voulais citer par cette question. Un bureau à Kinshasa, l'agence est à Kinshasa. Est-ce qu'il y a-t-il également des succursales, j'allais dire, des centres, notamment à Lubumbashi par exemple, à Goma, au Grand Kassai, pouvant que lorsqu'il y a des questions, nous, société civile, nous, peuple congolais,
on peut les remonter ici. Voilà, on peut les remonter à Kinshasa.
Voilà, c'est l'agence également.
Oui, merci, merci beaucoup, merci. Et on m'apprend que Enoch Mabika est aussi là. Enoch Mabika, vous êtes là?
Oui. Là.
Voilà, je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Mbujimayi au Kassai oriental. On vous écoute.
Oui, oui, je suis là depuis Mbujimayi.
Allez-y. Enoch?
Oui, je suis à votre écoute, oui.
Votre préoccupation, c'est laquelle?
Oui, ma préoccupation est la suivante. Bon. Nous avons toujours vu des projets pareils de construction des routes et après là, un temps, 2 ou 3 mois ou 6 mois, et rien n'avance et c'est bloqué et on ne sait pas voir la suite. Il n'y a pas même des informations pour informer la population que les routes sont arrêtées par rapport à ça. Si par exemple, nous pouvons voir la route de Mbujimayi-Kananga ici. Cette route-là, depuis qu'on a commencé à la construire, depuis les époques passées, mais jusqu'à présent, on nous parle toujours, on va construire, il y a des projets qui viennent, et après, rien n'est fait. Alors, j'aimerais que votre invité puisse nous rassurer si vraiment, réellement, les 7 milliards-là sera bénéfique pour toutes les provinces, pour toutes les routes de déserts agricoles dans le pays.
Merci.
C'est ça ma préoccupation.
Merci beaucoup, cher Enoch. On a aussi Jérémy Mwamba qui appelle depuis Lubumbashi. Jérémy, vous êtes là?
Oui, bonjour, monsieur Guy Martin.
Bonjour, Jérémy. Allez rapidement parce qu'on n'a pas, assez de temps.
Oui. Moi, je voudrais juste à ce qu'on puisse réqualifier les choses, partant l'histoire de ce contrat qui fait parler de lui, mais il faut que nous soyons sérieux dans ce que nous faisons. Ça veut dire, lorsque deux parties s'engagent, il faut pouvoir présenter chacun dans sa concession, il présente ce qu'il y a. Parce que vous savez que dans tout ça, c'est la RDC qui semblait être perdante. Alors il faut maintenant reprendre les choses en main. Il faut poser les préalables. Dire par exemple à la Chine, moi je préfère ceci. Parce que lorsqu'il y a deux marchés qui s'affrontent, il faut que réellement qu'on puisse redéfinir les choses au clair. Ça veut dire, par exemple, s'imprégner des routes que nous avons en Namibie. On dit, voilà, nous voulons qu'il y ait vraiment la durabilité des infrastructures que nous avons. C'est ce que la Chine n'a pas encore fait jusqu'à ce jour. Il faut que réellement qu'ils puissent faire les choses autrement. Et en plus, qui est-ce qui les engage lorsqu'ils sont sur le terrain? On voit que ce sont les Chinois qui s'occupent de tout, même des simples travaux. Nous voudrons maintenant que nos Congolais qui sont là, qui souffrent, parce que le chef de l'État, dans sa vision, il veut que on puisse avoir les problèmes d'employabilité puissent être résolus. C'est maintenant le moment. Il faut pouvoir engager nos autochtones, nos fils qui sont là pour pouvoir, n'est-ce pas, contribuer
Merci,
à la main d'œuvre pour pouvoir.
Merci, je pense que c'est la dernière intervention de la part des auditeurs parce que nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Freddy Yodi, vous comprenez qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, des préoccupations, beaucoup de questions que les gens se posent au sujet de ces contrats et je pense qu'on se réfère à l'expérience du passé avec les contrats signés initialement en 2008 et on espère que cette fois-ci les choses vont se faire impeccablement, différemment de ce qui a été fait avant. Alors vous avez suivi Patrick Odia depuis Lubumbashi qui a parlé de beaucoup de choses, il a évoqué la sous-traitance, il vous pose la question de savoir sur base de quels critères vous choisissez les routes, il parle de la durée n'est-ce pas, de ces infrastructures, il parle de la qualité des infrastructures, ça c'est une question importante.
Oui.
Aujourd'hui quand vous allez à Maluku, vous avez la route là qui est là, qui n'est plus entretenue effectivement, mais c'est une route qui date depuis l'époque du maréchal Mobutu, depuis 66.
Tout à fait.
Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de construire des routes de telle qualité? Alors, nous avons monsieur.
Enoch Mabika.
On a parlé aussi de Kalama Bougie.
Ouais.
C'est Enoch Mabika, de Pumbujimaï. Et puis Jérémy Lubumbashi, qui est revenu, n'est-ce pas, sur les entreprises locales. Allez-y.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Guy Maté. Merci, monsieur Maître Patrick. Merci pour le compliment. Et je vais vous promettre que je vais essayer de mettre en pratique toute cette expérience et toute cette expertise. En fait, vous parlez de préalable. Le premier préalable, vous avez parlé de la théorie. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites en théorie, mais la pratique n'a pas suivi. Vous savez, maître, qu'il y a la route, par exemple, de Kasumbalesa jusqu'à Sakania, qui est aujourd'hui la meilleure route du pays. Et vous savez que lorsque, justement, je travaillais dans le domaine des investissements, je le dis en toute humilité, c'est moi qui ai fait tout le démarchage pour la construction de cette route qui est
Kasumbalesa-Sakania. Mais vous n'avez pas beaucoup communiqué par rapport à ça.
Qui est vraiment.
On dit que les Congolais, quand ils font des bonnes choses, ils ne communiquent pas.
Qui est vraiment, cette route, c'est vraiment le bébé. C'est vraiment le bébé du président de la République. Mmh. Dès son avènement au pouvoir, il a conçu ce programme et c'est la meilleure route que nous avons aujourd'hui et c'est le standard que nous voulons suivre en fait.
Okay.
Nous n'avons pas beaucoup communiqué, M. Guy Maté, parce que justement, nous ne sommes pas dans la logique de la visibilité, nous sommes dans la logique de l'effectivité. Mmh. On veut que les gens voient des œuvres au lieu qu'ils entendent des paroles vides.
Voilà.
Ça c'est. Alors, vous avez parlé aussi, maître, de critères. Mmh. Les critères, nous voulons des projets intégrateurs, des projets structurants.
Okay.
Il ne faut pas qu'on fasse du saupoudrage.
Qui mette en connexion différentes provinces.
Effectivement. Les politiciens viennent, chacun veut un petit projet dans son pays, dans son terroir, et puis finalement, il n'y a rien de structurant.
Mmh.
Vous avez parlé de Kalambambouji.
Voilà.
C'est une route de 248 kilomètres qui quitte justement la frontière avec l'Angola jusqu'à Kananga. Mmh. Et cette route, maître Odia, vous pouvez vous rassurer, ainsi que tous les auditeurs, que cette route est prise en compte dans notre programmation du programme sino-congolais. Nous comprenons son importance.
Mmh.
Vous avez parlé de la route, pourquoi on ne peut pas relier Sakania à Mwanda. C'est la route nationale numéro 1. Les zones de trouble dans cette route nationale numéro 1, c'est Kamwesha, Kananga, Mbujimayi, et puis Mweneditu jusqu'à Ngouba. Eh bien,
La BAD est sur le tronçon Kananga Mbujimayi et Kananga Kamwesha, mais nous, le programme Sino-Congolais, nous intervenons de Mbujimayi à Ngouba et nous avons l'ambition de relier cette route dans une année.
Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Et votre conclusion?
Ma conclusion, c'est que nous pouvons faire confiance au choix judicieux du chef de l'État. Nous savons qu'avec un contrôle suivi, ça va aller.
Merci beaucoup. C'est par là que nous terminons cette émission. Nous disons merci à notre invité Freddy Odi Chembo, ainsi qu'à toutes les personnes qui sont intervenues dans cette émission. Merci également à Jean-Noël qui était à la technique, Blaise Shindani qui l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci une fois de plus et bonne suite de programme sur Radio Okapi. On se retrouve demain avec un autre sujet.